Bonjour, nous sommes en classe de seconde au lycée La Salésienne Don Bosco à Saint-Étienne, dans le cadre de l'option sciences techniques, sanitaires et sociales, en partenariat avec Radio Ondaine, nous menons un projet sur les addictions. Aujourd'hui, nous, Cali, Alicia, Sérène et Laurette, recevons Rémi Aubrespin, responsable de la consultation jeunes consommateurs du Centre Rimbaud. Bonjour, pouvez-vous présenter le Centre Rimbaud ?
Bonjour. Le Centre Rimbaud, c'est une association loi 1901, donc à but non lucratif. C'est une structure médico-sociale et plus exactement, c'est un centre de soins en addictologie. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui ont identifié que leur conduite addictive, diverses et variées, elles peuvent commencer à avoir des incidences sur leur vie de tous les jours.
Quel est le public qui vient dans le centre et comment ça se fait qu'ils viennent là ?
On accueille des personnes un petit peu de tout horizon. On accueille des personnes qui viennent parce qu'elles ont considéré qu'elles avaient des difficultés qui étaient trop importantes pour continuer à essayer de les gérer toutes seules. On accueille des personnes qui viennent parce qu'elles ont des consommations de substances diverses et variées et elles viennent pour essayer de faire en sorte de ne pas se dégrader davantage dans leur consommation. C'est ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. Donc ces personnes-là viennent demander des conseils de prévention pour avoir des consommations les plus sûres possibles. On a des personnes qui viennent parce qu'elles sont obligées, des personnes qui nous auront été orientées par la justice, notamment dans le cadre de conduite sous l'emprise d'alcool, sous l'empire de stupéfiants. Et le juge leur aura dit qu'elles ont l'obligation de venir suivre des soins au Centre Rimbaud. On a des personnes de l'entourage qui viennent, des personnes qui se posent des questions. Comment ça se fait que mon mari boive et qu'il n'arrive pas à s'arrêter ? Comment ça se fait que mon fils consomme du cannabis alors que je lui ai interdit ? Un petit peu toutes ces interrogations qui créent beaucoup de préoccupations chez les personnes de l'entourage, chez les parents, chez les conjoints, les enfants. Qui c'est qu'on accueille d'autres ? On accueille des personnes qui viennent chercher un petit peu de réconfort aussi, parfois. Des personnes qui n'ont parfois pas rencontrer de professionnels de santé depuis longtemps et qui viennent nous rencontrer pour réussir à recréer un petit peu de lien. Donc ça, c'est sur un service qui s'appelle le Carude, où on peut venir prendre un café, on peut venir prendre une douche et rencontrer des professionnels pour commencer à amorcer un début de lien avec des professionnels de santé.
Du coup, vous avez plus un côté psychologue aussi sur certaines personnes ?
Le côté psychologique, il est très présent dans le sens où l'histoire des personnes est en lien avec la manière dont elles se seront installées dans leurs conduites addictives. Mais pour autant, on a des psychologues au Centre Rimbaud qui vont assurer un travail psychologique pour essayer de comprendre dans l'histoire des personnes ce qui les a conduits à la situation actuelle. Et nous, on s'intéresse aussi à leur histoire, qu'on soit infirmier, qu'on soit éducateur. On va s'intéresser à leur histoire pour essayer de travailler le quotidien des personnes et tenter de les accompagner à améliorer leur situation.
Et du coup, vous avez dit que c'était à but non lucratif, donc comment vous faites pour rémunérer les médecins, etc.
On est reconnu mission d'intérêt général, donc c'est l'Agence régionale de santé qui est la délégation locale de la sécurité sociale, en fait, qui nous finance. On est financé par les mêmes instances que les hôpitaux, que toutes ces structures. Donc c'est l'État qui nous finance principalement.
Quel est votre rôle au Centre Rimbaud ?
Alors moi, je suis infirmier de formation. Je suis arrivé il y a 10 ans maintenant au Centre Rimbaud sur du travail d'accompagnement pour des personnes qui étaient en demande de soins. Et depuis maintenant 5 ans, je travaille sur un dispositif un petit peu plus spécifique qui s'appelle la consultation jeunes consommateurs. Et je suis coordinateur de ce dispositif. C'est-à-dire que mon rôle, c'est d'organiser les différentes missions de la consultation jeunes consommateurs.
Et du coup, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une consultation jeune consommateur ?
La consultation jeune consommateur, c'est un dispositif qui a une quinzaine d'années maintenant, qui est l'héritière de ce qui s'appelait avant les points écoute cannabis. C'est-à-dire, c'était les premières tentatives de créer du dialogue avec des jeunes qui pouvaient être concernés par la question du cannabis. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que toute forme de conduite addictive pouvait présenter les mêmes prises de risque chez les jeunes qu'on accueillait. Donc la consultation jeune consommateur, c'est un espace de rencontre, la plupart du temps individuel, mais qui peut être collectif aussi, où on va essayer de comprendre avec les jeunes qu'on accueille ou avec leur entourage, quelle est la place des conduites addictives dans leur quotidien. Donc on répond à 4 missions principales. La première mission, c'est un accueil anonyme et gratuit. C'est-à-dire que n'importe qui, y compris s'il est mineur, peut prendre rendez-vous et venir nous rencontrer en ayant la garantie de la confidentialité des propos, des échanges. La deuxième mission, c'est une mission d'information et de sensibilisation. On est là aussi en tant que structure ressource pour être en capacité de répondre aux questionnements de personnes qui ont besoin d'informations. La troisième mission, c'est la mission d'évaluation des conduites addictives. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comprendre quelles sont les places des conduites addictives dans le quotidien des personnes qu'on rencontre et à quel moment est-ce qu'elles deviennent problématiques. Et puis, on a une quatrième mission qui est une mission d'orientation. Quand on identifie qu'une personne va avoir besoin d'être accompagnée vers une structure de soins, à ce moment-là, on va l'accompagner pour prendre rendez-vous et poursuivre une démarche un petit peu plus longue.
Quel type de professionnels peuvent intervenir ?
Sur la consultation jeune consommateur, on trouvera des infirmiers, on trouvera des éducateurs spécialisés et des psychologues qui interviennent sur les différents sites, que ce soit sur le siège de l'association à Saint-Étienne, sur l'antenne de Roanne ou sur les différentes permanences qu'on va trouver dans la vallée de Londaine ou sur les territoires du Forêt.
Et pourquoi avoir choisi les consultations jeunes consommateurs, vous, comme métier ?
Ce qui m'a intéressé initialement, c'était de travailler avec un public jeune. J'ai des expériences préalables où j'ai pu expérimenter le lien avec un public adolescent. Et cet âge où on essaye de trouver ses propres solutions et où parfois on peut avoir besoin d'être accompagné pour continuer à se construire, c'est une période qui m'intéresse principalement. Et comme je travaillais en addictologie et que j'ai eu cette possibilité, je me suis investi dans la consultation jeune consommateur.
Vous intervenez aussi dans d'autres lieux, et si oui, lesquels ?
Depuis quelques années, on a fait le choix effectivement de développer un dispositif mobile. Et la mobilité, elle se décline sur deux axes principaux. C'est à la fois sur l'aspect individuel, la possibilité de pallier les difficultés de mobilité des jeunes qu'on peut être amené à rencontrer, donc en territoire rural et parfois sur des coins où on habite, même en territoire urbain. Ça peut être difficile de prendre un bus quand il y en a et de venir nous rencontrer à l'association. Donc nous déplaçons pour aller au-devant des jeunes, essayer de faciliter la rencontre et d'être en meilleure capacité de proposer des temps d'entretien. Et le deuxième axe, c'est l'axe des interventions de prévention principalement ou de sensibilisation. Et là, on intervient beaucoup dans les établissements scolaires, on intervient dans des maisons d'enfants à caractère social, on intervient dans des centres sociaux, dans des MJC. On a un certain nombre de partenaires sur les différents territoires qui nous accueillent, qui nous sollicitent sur de la construction de projets pour essayer de réfléchir la meilleure façon qu'on peut avoir de parler de conduite addictive avec leur public.
Depuis que vous intervenez, depuis que vous faites des préventions dans les écoles, est-ce que vous avez vu quelque chose qui changeait au centre ou pas ?
Ce qui peut changer, c'est essentiellement que notre structure soit connue, soit mieux connue pour permettre de venir nous rencontrer individuellement quand on s'aperçoit que dans le contenu des interventions de prévention, certains sujets peuvent faire écho à un parcours personnel. Ce qu'on peut difficilement évaluer, c'est si la prévention a un réel impact. On sait que si on n'en fait pas, on ne va pas aider à améliorer aucune situation. On sait que selon comment on fait de la prévention, si on la fait mal, on va avoir l'effet inverse. On va plutôt être contre-productif. On envisage qu'en réfléchissant ensemble sur toutes ces questions de société et notamment les questions liées aux conduites addictives, on va peut-être permettre d'amener des questionnements personnels. Et quand on a rencontré des professionnels sur des actions de prévention, on espère que ce sera plus facile par la suite de prendre rendez-vous et de nous rencontrer individuellement.
Comment se passe une intervention dans une école ?
Une intervention dans une école, alors on travaille principalement avec les collèges et lycées. C'est très 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 rare qu'on intervienne avant, on est en primaire par exemple. Encore que ça peut arriver, notamment sur la question des écrans ou des jeux, des choses comme ça. En collège ou en lycée, ce qu'on essaye de travailler avec les classes qu'on rencontre, c'est de réfléchir ensemble aux représentations qu'on a sur les différentes conduites addictives. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous évoque quand on parle de tabac, quand on parle d'alcool, quand on parle de cannabis, quand on parle d'écran, quand on parle de sport ? Comment est-ce qu'on peut envisager que, alors que j'ai une pratique en lien avec certaines expériences ou que j'ai de la curiosité, je risque à un moment donné de devenir dépendant de cette pratique qui pourtant, en effet ressentie, a l'air de me faire du bien. Du coup, on essaye de réfléchir tout ça, on essaye de voir ce que ça nous évoque, on essaye de comprendre quelle place on a quand on a 14 ans, 15 ans, 18 ans, quelle place on a au sein d'un groupe, au sein d'une classe, au sein d'une communauté. On essaye de réfléchir sur les différentes influences qui nous tentent, sur ce qui nous fait envie, sur comment on a envie de répondre à certaines curiosités. On réfléchit aux conséquences qu'il peut y avoir. Alors à la fois les conséquences positives parfois, c'est-à-dire celles liées aux questions de plaisir, et puis on réfléchit aussi à toutes les conséquences négatives qu'il peut y avoir consécutivement aux consommations de substances, au fait de parfois de passer du temps derrière les écrans et parfois d'avoir un petit peu l'impression de se couper du monde. On essaye de comprendre toutes ces questions-là et on essaye, en dernier lieu, de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que nos conduites addictives, on en a tous des conduites addictives, on essaye de réfléchir comment on peut faire pour qu'elles ne deviennent pas une dépendance et donc d'identifier les petits signaux qui montreraient qu'on est en train de s'inscrire dans une addiction.
Donc revenons-en au Centre Rimbaud. Après ces interventions, y a-t-il un suivi ?
Pour les personnes qui le demandent, c'est tout à fait possible, effectivement. Donc, en général, à la fin des interventions, on essaye de proposer un petit temps pour que les personnes qui auraient des questions un peu plus personnelles que celles qui auront été traitées devant toute la classe, pour que ces personnes-là puissent trouver le temps nécessaire pour venir aborder des thématiques un peu plus personnelles. Et dans certains cas de figure, ça peut se traduire par la suite par des rencontres individuelles sur des entretiens beaucoup plus formalisés. Donc on va proposer des possibilités d'accueil sur de l'entretien individuel.
Comment peut-on prendre rendez-vous aux consultations jeunes consommateurs et combien de rendez-vous faut-il ?
Alors on est un dispositif d'accompagnement bref, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges qui prévoit qu'on ne se voit pas très très souvent. C'est-à-dire entre 4 et 6 fois en moyenne. C'est des entretiens qui durent en général autour d'une heure. C'est des entretiens qui sont à une fréquence pas trop trop rapprochée. On ne se voit pas une fois par semaine parce qu'on se lasserait vite. On aurait très rapidement plus grand-chose à se dire. On a besoin de réfléchir ce dont on a parlé en entretien. Donc on peut estimer qu'un accompagnement, ça dure entre 3 et 6 mois la plupart du temps, parfois un peu plus, parfois un peu moins, en fonction de chacun. Et pour prendre rendez-vous sur toute la couronne stéphanoise, sur la vallée de Londaine, sur le Forêt, tout passe par le secrétariat du Centre Rimbaud. Donc on peut prendre rendez-vous par téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 04 77 21 31 13. Et si on est un petit peu curieux, si on a envie de savoir un petit peu ce que c'est plus exactement, un peu plus visuellement, ce que c'est le Centre Rimbaud, on peut aller sur le site internet qui est centre-rimbaud.fr. Et on est en train d'essayer de développer d'autres outils qui sont plus en lien avec le public qu'on rencontre sur la consultation jeunes consommateurs, c'est-à-dire notamment de passer par les réseaux sociaux et d'essayer de mettre en place des liens un peu plus rapides.
Et pendant la durée des interventions, est-ce qu'ils voient d'autres professionnels spécialisés dans leurs addictions, par exemple pour le tabac ? Est-ce qu'ils voient un tabacologue ?
Tout dépend. C'est quand on rencontre quelqu'un, en fait, on a rarement un schéma préconçu qui permet de savoir ce dont il va avoir besoin. En général, on va commencer par essayer de comprendre quel est le quotidien de la personne qu'on rencontre. Et dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de spécialiser la consultation. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le processus qui a conduit à devenir dépendant ou à en prendre la voie. Si on réussit à s'apercevoir en amont qu'on commence à avoir des conséquences négatives. Donc on va essayer de comprendre quelle est la place. On va essayer de comprendre de la même manière quelle est la place du cannabis, du jeu, des écrans, de l'alcool, du tabac, de voir à quoi ça vient répondre pour essayer de trouver, de réfléchir ensemble les réponses qui paraissent les plus adaptées. Et puis dans certains cas de figure, effectivement, ça va devenir nécessaire de spécialiser la consultation. Auquel cas, on pourra avoir recours à des consultations plus spécialisées en tabacologie. On peut orienter sur certains services de l'hôpital pour des addictions aux opiacés, notamment avec un service qui s'appelle l'UTDT, qui est sur le site de Bellevue, au CHU. On peut orienter vers le service de troubles de comportement alimentaire, parce qu'on s'aperçoit que non seulement ça fonctionne à peu près pareil, mais en plus c'est assez régulier qu'on trouve des liens entre une situation d'addiction et des troubles de comportement alimentaire. On peut orienter vers des services de psychiatrie, on peut orienter vers différents endroits où on va avoir un recours un peu plus médical à toutes ces questions-là.
Est-ce que dans le public, vous avez des questions ?
Oui, vous avez parlé de conduite addictive. Vous avez dit qu'on avait tous des conduites addictives, mais qu'on n'était pas forcément dépendant, ou alors on est forcément dépendant dès qu'on a des conduites addictives ?
Effectivement, je vais développer ce point. Donc, ce qu'on appelle conduite addictive, c'est l'ensemble des comportements, l'ensemble des consommations qu'on peut avoir, qui un jour pourrait se traduire par une addiction. On part du principe que quand on parle de conduite addictive, on n'est pas encore forcément dépendant. Et on essaye d'essayer de voir dans quelles circonstances on pourrait, à un moment donné, devenir dépendant à ce comportement. Assez classiquement, le schéma est traditionnellement le même. Quand on a des consommations qui augmentent, c'est très souvent en lien ou à un contexte de fête un peu plus marqué que d'habitude. Donc là, on est sur des consommations récréatives qui peuvent devenir un peu plus importantes et qui vont demander à se réguler tout seul. Et puis, dans la majorité des cas, surtout, ce qui apparaît, c'est que j'ai une recherche thérapeutique dans l'usage que j'ai de substances, dans l'usage que je vais avoir d'écran. C'est-à-dire que face à des situations de vie qui sont insupportables et pour me maintenir du côté de la vie et pas du suicide, je vais essayer de trouver des éléments qui me font du bien. Les éléments qui me font du bien, ça peut être de fumer un joint et de plus penser à la situation désastreuse que je vis au lycée avec un mal-être scolaire. Ça peut être de me réfugier derrière mon ordinateur parce que ça m'évite d'entendre la situation que je constate de parents pour qui ça va plus et qui s'engueulent à la maison. Ça peut être pour supporter de l'alcool qui va servir à supporter la tristesse que j'ai d'avoir perdu ma grand-mère. Ça va être autant d'expériences personnelles qui font que je vais chercher du réconfort dans un comportement qui est efficace, mais qui est un piège. Et en général, ce qu'on peut constater, c'est que quand les consommations augmentent en lien avec un mal-être, ces consommations-là, ou ces conduites addictives sans substance, elles augmentent très, 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 très rapidement. Mais par contre, pour compléter ma réponse, il n'y a aucun produit dont on devient dépendant à la première prise. Les conduites addictives qu'on a, certaines personnes en deviendront dépendantes, majoritairement pour les causes que j'ai citées. Et pour la plupart d'entre nous, on sera en capacité de réguler, de gérer nos conduites addictives.
J'aimerais savoir s'il y a des substances, par contre, dans lesquelles on tombe plus vite dépendant que d'autres. C'est-à-dire que vous dites que ce n'est pas la première consommation, mais est-ce que le tabac est aussi addictif que l'alcool ou le cannabis, voilà.
Alors, quand on parle de la dangerosité des substances, on se réfère en général à trois concepts principaux. C'est ce que Alain Morel avait décrit dans son cube de la dangerosité des substances. On va se référer en premier lieu sur la question de la toxicité du produit, c'est-à-dire la dangerosité que le produit va avoir sur une utilisation au long cours. Donc dans ces produits-là, on va trouver des produits comme l'alcool, comme le tabac, comme la cocaïne. On va regarder dans un deuxième temps quelle est l'intensité du produit. Donc là, on est sur une prise de risque immédiate, notamment avec le risque ou d'overdose ou de décompensation psychiatrique. Et puis le troisième axe, c'est celui que vous décrivez, l'axe qu'on va regarder, c'est l'axe du potentiel addictif des substances. Et donc, certaines substances ont un potentiel addictif très haut et on va trouver en premier lieu, la nicotine. En second, on regardera du côté du crack, de la cocaïne et puis l'héroïne qui arrive en quatrième position. Mais contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir de la cocaïne qui rendrait dépendant à la première prise, la nicotine a un pouvoir, un potentiel addictogène qui est plus important encore que la cocaïne. Et puis, on va trouver certains produits qui vont créer d'autres formes de dépendance aussi, c'est quand on va parler de toute la question des dépendances psychologiques, des dépendances comportementales. Et quand on regarde toutes les formes d'addiction qui peuvent exister, on se rend compte que le tabac, notamment, et d'autant plus parce que c'est le produit le plus répandu, est le produit le plus addictogène qu'on peut rencontrer.
Et par rapport à la tranche d'âge des personnes qui viennent vous voir pour addiction, n'importe quelle addiction, c'est quoi à peu près ?
Alors sur l'ensemble du centre Rimbaud, on est ouvert à toutes les catégories d'âge. On n'a pas de limite ni inférieure ni supérieure. Malgré tout, quand on reçoit des mineurs, on va prioritairement les orienter dans un premier temps sur la consultation jeune consommateur. Et donc nous, sur la consultation jeune consommateur, on a une limite d'âge établie à 25 ans. Donc on peut prendre rendez-vous pour faire un état des lieux de là où on en est de ses conduites addictives jusqu'à 25 ans sur la consultation jeune consommateur. Par la suite, en général, on va plutôt passer par le centre de soins.
Quel est l'objectif que vous fixez lors d'une consultation jeune consommateur et avec qui ?
Les objectifs, c'est pas nous qui les fixons en fait. Ce qu'on va travailler en entretien avec les personnes qu'on reçoit, ça va être d'accompagner à ce que la personne qu'on reçoit se fixe elle-même ses objectifs. Donc en fait, on va la guider pour qu'elle puisse prendre conscience de ce qu'elle désire faire de ses conduites addictives. On va pas décider à sa place, on va pas décider si cette personne doit arrêter ou pas ses consommations. On va l'accompagner vers ce qu'elle, elle souhaite mettre en avant. Donc ça peut être un arrêt, ça peut être une reprise de la maîtrise de ses consommations, ça peut être accompagné sur des meilleures connaissances. Et une fois qu'on aura fixé ces objectifs-là, on va regarder on va accompagner à définir les stratégies qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Et là, encore une fois, on va s'appuyer sur les compétences de la personne et sur ce qu'elle estime, ce qu'elle envisage qui va fonctionner. Notre parti pris, c'est qu'on ne peut pas se mettre à la place des personnes qu'on accueille. Par contre, quand ça devient difficile de rassembler un petit peu ces idées, notre rôle, ça va être ça. Ça va être de guider, d'accompagner pour réussir à trouver à récupérer la meilleure maîtrise possible de son quotidien.
Nous tenons à vous remercier, Rémi Aubrespin, d'être venu du coup dans notre lycée La Salésienne Don Bosco à Saint-Étienne. Et nous remercions le Centre Rimbaud d'avoir collaboré avec nous.
Merci.